Alors bien, bon matin à tous. C'est avec grande joie que j'ai accepté l'invitation de Jean-Luc de venir partager la parole avec vous. Est-ce qu'on a besoin de ça? Non? De venir partager la parole avec vous. Vous savez, j'ai beaucoup de souvenirs qui sont rattachés ici à l'Église pour y avoir été pendant une vingtaine d'années. Je me souviens, entre autres, lorsque, avec Jean-Claude, Lucie, on avait parti de le Café chrétien en bas avec une équipe de responsables qui avait une vision et qui était capable de voir que la jeunesse, reculons de 25 ans, c'était pas évident de partir un Café chrétien dans une église évangélique. Mais la vision de nos responsables nous ont permis de mettre ça de l'avant et pendant plus de 10, 15 ans, plusieurs personnes sont venues à la fois en venant participer dans ces cafés. Et c'est des bonnes, c'est des choses que je me rappelle avec joie. Je me rappelle la construction de la partie ici avec Donald Cadotte, avec toute l'équipe de diacres de l'époque qu'on avait monté ici, cette deuxième partie, puis s'agrandir. Et je vois encore André. André Samson sauter sur le plancher à peu près ici, il n'y avait pas de mur, il n'y avait rien, mais il sautait de joie de voir que l'Église ici du Cap s'en allait pour grandir et qu'on avait décidé de mettre la main à la pâte pour que l'Évangile de Jésus-Christ soit bien outillé pour la présenter ici au Cap de la Madeleine. Et c'est tous ces souvenirs qui me revenaient à l'idée de venir partager la parole avec vous ce matin. C'est avec joie aussi que je veux le faire. On peut tourner, si vous voulez, dans l'épître de Tite, au chapitre 2 et au verset 11. L'épître de Tite, au chapitre 2 et verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour de bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte et reprends avec une pleine autorité et que personne ne te méprise. Ici, c'est Paul qui adresse ses paroles à Tite concernant la grâce de Dieu et en même temps que la grâce de Dieu, la responsabilité de ceux qui ont goûté à cette grâce de Dieu. Israël était le peuple élu de Dieu. Et malgré son élection et malgré la grâce qui a été la sienne, Israël a extrêmement souffert. Pourquoi? À cause de sa désobéissance. Israël a été emmené en captivité devant des rois cruels pendant 70 ans. Il a été chassé à travers toutes les nations pendant de plus de 1900 années. Et il a souffert l'Holocauste, plus près de nous, 6 millions de Juifs massacrés. Ils ont dû, pris dans leur ville, assiégés, manger la chair de leurs propres enfants. Et pourtant, c'était le peuple élu de Dieu. Et souvent même, le monde qui ne connaissent pas la grâce de Dieu vont nous dire qu'ils refusent de croire en Dieu parce qu'ils disent « Où était Dieu lors de l'Holocauste ?» Où était Dieu lorsqu'ils ont été chassés de cette façon de leur pays? Beaucoup de chrétiens, comme Israël, j'en ai peur, souffrent aussi. À cause aussi de la désobéissance. Il y a une souffrance dans le peuple de Dieu qui est là à cause de la désobéissance. Et je crois qu'une mauvaise conception de la grâce de Dieu peut nous amener à négliger cette obéissance envers la loi de l'Éternel. Et pour nous, chrétiens, la loi de l'Éternel, c'est la loi de Christ. C'est les enseignements que le Nouveau Testament nous donne sur le bien et sur le mal. La grâce nous assure, comme enfants de Dieu, la certitude, obéissance ou pas d'obéissance, que nous sommes enfants de Dieu et nous sommes enfants de Dieu pour toujours, peu importe notre comportement suite à notre adoption. Comme si on est adopté, mais comme si on adopterait quelqu'un chez nous, ce n'est pas sa conduite qui va perdre son adoption ou la garder. Il est devenu, on l'a adopté, il est dans la famille, obéissant ou désobéissant. Mais, par contre, la grâce de Dieu n'a pas empêché Dieu de discipliner son peuple. La grâce de Dieu n'empêche pas non plus de discipliner son Église et de discipliner ses enfants qu'il a appelés à l'adoption. Les débuts de l'Église nous montrent la pensée de l'Esprit lorsqu'il va juger sévèrement Ananias pour avoir menti sur un don. Ce n'était quand même pas si grave. Mais le Saint-Esprit, je crois, lorsque l'Église a été fondée, voulait montrer que l'obéissance serait traitée, que Dieu interviendrait si le peuple s'éloignait d'obéir à la loi de Christ. Et qu'il est intervenu sévèrement avec Ananias pour planter ce principe solidement. Et on a vu le résultat. Toute l'Assemblée, une grande crainte s'est emparée de l'Assemblée avec l'affaire d'Ananias. Et lorsqu'on arrive à la fin de l'Apocalypse, au début plutôt, dans les derniers livres de la Bible, aux sept églises, voici ce que le Seigneur va dire. « Moi, je reprends, le texte est en arrière, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repends-toi. » Ici, il s'adressait à l'Église et par la bouche de Jean. La grâce de Dieu, ce ne signifie pas qu'on est sans loi. L'apôtre Paul va citer en 1 Corinthiens 9, 21, « Je ne suis pas moi-même sans la loi de Dieu. » Et on sait comment l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Galates, va défendre le légalisme et de ceux qui cherchent la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Donc, Paul est très clair. Il n'est pas question ici de chercher à être justifié par la loi. Mais Paul rappelle que ce n'est pas parce que je ne cherche pas la justification dans la loi que je suis sans loi, parce que je suis sous la loi de Christ. Et je cherche à obéir à cette loi de Christ. L'élection du peuple juif n'était pas en jeu dans son obéissance, mais sa qualité de vie présente et future aussi était en jeu. Dans Deutéronome, Moïse va dire concernant la loi, « Ce n'est pas une chose sans importance pour vous, c'est votre vie. » Il y a beaucoup de choses qu'on évalue comme important ou moins important. Mais ici, Moïse va dire, écoutez bien, vous qui êtes le peuple de Dieu, la loi de l'Éternel n'est pas sans importance pour vous. C'est votre vie. Et Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La qualité de vie d'Israël était liée à son obéissance et la qualité de vie d'un croyant, je le crois, est aussi liée à l'obéissance de la loi de Christ pour sa qualité de vie. Dans les derniers temps, la Bible nous dit, l'apôtre Paul, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. » La grâce de Dieu, si elle est mal saisie, si elle est mal expliquée, si elle est mal comprise, peut nous amener à croire qu'on peut vivre notre vie à peu près n'importe comment, mais Christ a donné sa vie pour nous, et maintenant, dans sa grâce, on est abrié de toute chose, de toute désobéissance, et qu'il est devenu impossible pour nous. On n'a pas besoin maintenant de plaire à Dieu, parce que Dieu, Jésus, a plu à son Père, à notre place. On n'a pas besoin non plus de changer notre conduite. Notre conduite ne fera pas de différence ici, sur terre ou dans le ciel, parce que Christ est mort pour nous. Il a tout accompli à ma place. Donc, ma conduite ne fera pas de différence sur ma qualité de vie présente, ni sur ma qualité de vie future. Un chrétien ne devrait plus jamais avoir honte. Christ a supporté la honte à la croix. Il est mort à ma place. Il a été humilié devant tout le monde. Donc, moi, comme chrétien, il n'est plus nécessaire que j'éprouve aucunement la honte, quelle que soit ma conduite parmi le peuple de Dieu. On peut en conclure qu'on ne doit jamais exercer la discipline parce que Christ a été puni pour nous. Et puisqu'il a été puni, il n'y a pas de discipline, peu importe nos actions et nos gestes. Saisir la grâce de Dieu de cette façon, je crois, ne nous vient pas des Écritures. Et malheureusement, peut nous amener justement à négliger l'importance de la loi de Christ sous laquelle nous sommes. Certains auteurs bien connus, évangéliques, faisant la promotion de la liberté en Christ, que la liberté que nous avons, prétendent que la grâce de Dieu fait que Dieu est toujours satisfait de nous. Mais lorsqu'on lit les Écritures, on doit réaliser que Dieu souvent peut ne pas être satisfait de nous. À cause, justement, de cette conduite. Il faut faire une distinction entre la grâce de Dieu dans le salut et la grâce de Dieu dans la sanctification. Je ne peux pas rien faire pour plaire à Dieu afin d'obtenir le salut de Dieu. Je ne plairai jamais assez à Dieu pour m'en obtenir le salut. Mais dans ma sanctification, je dois chercher à plaire à Dieu. Parce que justement, j'ai connu la grâce de Dieu. Voici la définition que cet auteur évangélique donnait du légalisme. Le légalisme, c'est « fais ceci et pas cela, ainsi je plais à Dieu ». Je fais ceci et pas cela, ainsi je plais à Dieu. Je crois que ce n'est pas une définition juste du légalisme. Parce qu'il aurait été plus sage de dire « Je fais ceci et je ne fais pas cela, ainsi j'obtiendrai le salut. » Ça aurait été le légalisme dont Paul parle dans Galates. Mais de dire « Je fais ceci et je ne fais pas cela, ainsi je plais à Dieu », ça, ce n'est pas la bonne définition du légalisme. Parce que si j'ai désobéi aux paroles claires du Nouveau Testament, je plais à Dieu, je déplais à Dieu si je désobéis, et si j'obéis, je plais à Dieu. Et ce n'est pas du légalisme de tenter de plaire à Dieu face à ses commandements, à ce qu'il nous a demandé de faire. Dans 1 Thessaloniciens 2:4, l'apôtre Paul cherchait à plaire à Dieu. « Nous parlons non comme pour plaire aux hommes, mais à Dieu qui éprouve les cœurs. » Paul savait très bien que dans ses discours, dans ses messages, il pouvait parler de façon à satisfaire la foule, de façon à répondre justement cette liberté peut-être à laquelle elle aspirait, de vouloir vivre leur vie comme il leur semblait bon. Mais Paul jamais n'a voulu prêcher pour plaire aux hommes. Paul cherchait à plaire à Dieu. Et ce serait mal saisir la grâce de penser que maintenant que Christ a souffert pour nous, on ne peut plus plaire ou déplaire à Dieu. Christ n'a plus à Dieu pour nous. Il conjurait les frères d'améliorer leur conduite afin de plaire à Dieu. Écoutez-le dans Thessaloniciens. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, nous vous prions, nous vous en prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Donc, la grâce de Dieu n'amenait pas Paul à dire aux Thessaloniciens, « Ne vous inquiétez pas de la question, de la façon dont vous devez plaire à Dieu ou pas. Christ a fait ça pour vous. Et réjouissez-vous de votre liberté et faites ce qui vous semblera bon. » Chercher à plaire à Dieu, ce n'est pas du légalisme dans la sanctification. Ce serait dans le salut, mais pas dans la sanctification. À cause de la grâce de Dieu, notre conduite ne ferait aucune différence, supposément ici ou dans l'au-delà. Parce que Christ est mort pour moi, que je me conduise d'une façon ou que je me conduise d'une autre façon, ça n'aura pas vraiment d'impact sur ma vie présente et ça n'aura pas non plus sur ma vie future. Christ a réglé ça. Ce serait une mauvaise façon. Et de la façon dont l'auteur rapporte ce principe, il dit certains chrétiens, en se moquant plutôt de ces chrétiens qui vivent de cette façon, certains chrétiens vivent comme s'ils étaient notés, comme s'ils passaient un examen et qu'ils étaient notés. L'apôtre Paul vivait comme s'il était noté. Il s'entraînait comme un courseur et il voulait gagner la course. Il voulait être le meilleur. Il savait qu'il y avait un prix à rapporter. Et Jésus lui-même nous a rapporté par ses paroles dans Matthieu, « Quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. » Jésus dit, il nous avertit que nous sommes notés. Nous sommes notés. Ce que nous allons faire sur cette terre va avoir une influence pour la vie présente et aussi une influence pour la vie future. Dans Hébreux, l'apôtre Paul dit, « Dieu n'est pas injuste pour oublier de votre travail, le travail de votre amour que vous avez montré pour nous, pour son nom plutôt, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. » Tu regardes le travail de ses enfants et Dieu observe et Dieu n'oubliera pas. Il a noté, il a pris en note. Et s'il prend en note des détails comme les verres d'eau, il prend aussi certainement tout le reste. Et c'est ce que la Bible nous enseigne. Et ce n'est pas du légalisme de vouloir plaire à Dieu et de savoir qu'à cette attitude et à cette conduite est liée des promesses de bonheur, d'être heureux sur cette terre et des promesses pour la vie future. Voici ce que la Bible nous enseigne. À cause de la grâce de Dieu, on ne doit jamais exercer la discipline, selon cet auteur. Pourquoi? Parce que Christ a été puni à ma place, donc je ne peux plus subir de châtiment. Est-ce que c'est vraiment ce que la grâce de Dieu nous enseigne? Il va dire, pour expliquer cela, « Je ne trouve rien dans la Bible nous permettant d'imposer des restrictions à un autre. Faire cela, c'est du légalisme. Notre tâche est de libérer les croyants et celle de Dieu de les contraindre. » Ce n'est pas le message qu'on trouve dans la parole de Dieu. La Bible dit, « Si tu vois ton frère pécher, va, reprends-le entre toi et lui seul. S'il ne t'écoute pas, dis-le à l'Église et intervenez, imposez la restriction lorsque le péché est bien vu et bien constaté. On doit exercer cette discipline. » Et il utilise dans son exemple une personne, un chrétien qui avait vécu dans l'ivrognerie pendant des années, qui avait vécu à cause de son ivrognerie un accident terrible, brisé, malade. Il va dire, oui, il a eu des conséquences pour sa vie de chrétien charnel, mais on doit le laisser libre de prendre ses décisions et on ne doit pas intervenir, on doit le laisser libre de ses choix. Et voici ce que nous dit la Bible concernant ceux qui vivent dans l'ivrognerie ou d'autres choses. Nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre et qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le. Et n'ayez pas de communion avec lui afin qu'il éprouve de la honte. Dans 1 Corinthiens 5, 11, si quelqu'un se nommant frère vit dans l'ivrognerie et il cite une autre liste de péchés, que tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair. Et la discipline doit être exercée par l'Église et la grâce de Dieu n'empêche pas cette discipline. Au contraire, la grâce de Dieu donne à l'Église un moyen d'aider ses frères qui vivent en difficulté, qui n'ont pas saisi l'importance de l'obéissance aux lois de Christ pour les ramener à leur bon sens et obéir à la parole de Dieu. Un chrétien, selon cette théorie de la grâce de Dieu, ne devrait jamais avoir honte parce que Christ a porté la honte pour nous. Nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous, et regardez, il dit, afin qu'il éprouve de la honte. Croyez-vous que Dieu veut que nous éprouvions de la honte? Oui, si nous avons péché. Et si nous persistons dans cette attitude, Dieu appelle l'Église à intervenir afin, dans le but précis, que la personne en éprouve de la honte, que cette honte amène la crainte chez le peuple de Dieu et que cette honte amène le changement dans la vie de ce croyant. Voici la grâce de Dieu et cette définition qui devrait être, qu'elle devrait être la définition concernant et son application concernant la grâce de Dieu. Paul renversait les raisonnements. Il emmenait toute pensée captive à l'obéissance de Christ. L'Ancien Testament lie la bénédiction à l'obéissance et la malédiction à la désobéissance. Le psaume 1 nous dit ceci. Oh, 1 Corinthiens 5. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, mais qui s'assit pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Heureux celui qui aime la loi de l'Éternel, dit le psalmiste. Et Moïse aussi trouvait sa joie et dit au peuple de Dieu qu'il va trouver ça, la bénédiction dans l'obéissance. Au verset 8 dans Deutéronome 28, l'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi lorsque tu vas obéir. Au verset 12 du même chapitre, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Et au verset 13, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Pour ceux qui prennent à cœur d'écouter et de mettre en pratique la loi de l'Éternel. Parce que, et celui qui désobéit, parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel, tu seras opprimé, dépouillé, personne pour te secourir. Tu descendras toujours plus bas, etc. Lisez Deutéronome 28 concernant les bénédictions et les malédictions. Et vous allez dire, on est dans l'Ancien Testament, et ça c'est la loi, et on n'est plus là-dessus. Et Christ a souffert pour tout ça, et on n'a plus ça dans le Nouveau Testament. On a ça aussi dans le Nouveau Testament. Tournez, si vous voulez, avec moi dans 1 Corinthiens, chapitre 10. Ici, le contexte nous parle justement où ce que Moïse a traité avec Israël et où ce qu'il a donné cette loi au peuple d'Israël et de sa marche dans le désert. « Je veux, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères qui ont tous été sous la nuée, qui ont tous passé au travers la mer, qui ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qui ont tous mangé le même aliment spirituel, qui ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et le rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. S'il n'y a aucune incidence avec la façon dont ça fonctionnait dans l'Ancien Testament et celle que ça fonctionne maintenant qu'on est sous la grâce, pourquoi Paul rappelle ces choses? Pourquoi ces choses auraient été écrites pour notre instruction? Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez pas idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis se lève pour manger, se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livraient, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Est-ce que ce serait des menaces en l'air de la part de l'apôtre Paul de nous citer les interventions que Dieu a faites face à la désobéissance, de nous exhorter à ne pas agir comme eux? Mais ce n'est pas grave, si vous agissez comme eux, il n'y aura pas de conséquences. Je suis convaincu que l'apôtre Paul, ici, avait à son esprit qu'il y a des conséquences à la façon dont on vit notre vie chrétienne si on décide de mettre de côté la pensée de Dieu. L'apôtre Pierre lit aussi... je ne sais pas si je suis dans le bon. Peut-être celui d'avant. OK, c'est celui-là. Si en effet, quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux. Ici, Pierre lit la bénédiction à l'obéissance. Si en effet, quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il cherche la paix et la poursuive, car le Seigneur a les yeux sur les justes et les oreilles ouvertes à leur prière. Et la malédiction, c'est que, mais la face du Seigneur se tourne contre ceux qui font le mal. Et c'est Pierre qui dit ça à l'Église. Le salut n'est pas en jeu ici, mais la qualité de vie du croyant, le bonheur du croyant, les promesses, les récompenses pour le delà sont en jeu dans ces textes. La désobéissance d'Israël n'a pas changé le choix de Dieu pour son peuple élu. Ils ont souffert. Beaucoup de chrétiens souffrent, malheureusement aussi. Beaucoup. Ils ont négligé, pour un, la loi de l'Éternel de l'Ancien Testament, et pour l'autre, la loi de Christ pour l'Église. Le Nouveau Testament lie l'obéissance aussi à la bénédiction. Ici, Paul, dans Philippiens, ce que vous avez appris et reçu et entendu, ce que vous avez vu de moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Ici, Paul lit aussi la bénédiction à l'obéissance. N'oubliez pas l'hospitalité, parce que quelques-uns, en l'exerçant, ont logé des anges. Quelle surprise! On exerce l'hospitalité. Un clochard, peut-être, qui rentre chez nous. Et Dieu nous bénit. C'est un ange. Il dit, faites l'hospitalité. Dieu va vous bénir, peut-être. Il va vous surprendre. Imaginez Enoch qui marchait avec Dieu. C'est écrit qu'il marchait avec Dieu. Jamais c'est arrivé avant lui. Parce qu'il marchait avec Dieu, Dieu l'a pris avec lui, il l'a enlevé. Quelle surprise! Il n'obéissait pas à Dieu pour être enlevé. Il obéissait à Dieu pour goûter à la bénédiction de Dieu. Et Dieu l'a béni. Il n'est pas passé par la mort, comme la plupart des gens passent par la mort. Jacques nous dit que la patience aussi nous amène le bonheur. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Jacques, la guérison, confessez vos péchés les uns les autres, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. L'obéissance. La maladie frappait les croyants qui avaient des péchés cachés, et je crois que ça existe encore aujourd'hui. Et c'est pour ça que Jacques conseillait à ce moment-là d'appeler les anciens. Et c'est dans un contexte où les anciens se rendaient chez la personne qui souffrait d'une maladie à cause de son péché, qui devait confesser sa faute aux anciens. Les anciens pouvaient prier pour lui, et à cause de sa repentance et de la foi, le croyant était guéri. Il y avait des bénédictions parce que cet homme s'est humilié puis a admis sa faute. Obéissance donne l'approbation. Les gouvernements ne sont pas à craindre quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Et non seulement l'approbation des autorités, mais tu auras aussi l'approbation de Dieu. Parce qu'on peut avoir l'approbation de Dieu et on peut ne pas avoir l'approbation de Dieu dans nos actions. Paul lit aussi l'obéissance dans Romains et nous dit qu'on peut être agréable à Dieu. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Donc, on peut, malgré la grâce de Dieu, être désagréable à Dieu et on peut être agréable à Dieu parce qu'on ne parle pas du salut ici, mais on parle de la sanctification et de notre marche avec Dieu. Pierre aussi, il lit le bonheur. Si en effet quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal, on l'a lu tantôt, ce texte. La désobéissance, Pierre aussi lit les conséquences de la désobéissance. Mais la face du Seigneur se tourne contre ceux qui font le mal. Et c'est Pierre qui dit ça à l'Église dans le Nouveau Testament. Paul aussi parle des tourments liés à la désobéissance concernant l'argent. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans bien des tentations, dans la tentation, dans les pièges et dans une foule de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, et vous avez oublié l'exhortation qui vous a été adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Si on veut parler de la grâce ici, on doit parler de la grâce dans le châtiment. Parce que lorsqu'on désobéit, c'est la grâce de Dieu qui amène le châtiment. afin qu'on participe à la sainteté, contrairement au monde où Dieu va laisser plutôt aller le pécheur dans sa voie jusqu'à ce qu'il se repente. Mais pour le chrétien qui est son enfant, il veut qu'il participe à sa sainteté. Il va intervenir. Lequel des pères ne châtie pas son fils? L'apôtre va continuer à dire dans ce texte. Et si c'est comme à des fils que Dieu vous traite lorsqu'il vous reprend? Parce qu'il veut que vous soyez heureux. Parce qu'il veut vous éviter ces troubles qui peuvent être amenés par la désobéissance. Châtiment, même pour Moïse. On peut être un homme de Dieu et on peut être châtié. Lorsque Paul parlait tout à l'heure dans Corinthiens de ce qui est arrivé et en disant qu'ils étaient tous morts dans le désert, avez-vous remarqué? Même Moïse est mort dans le désert. On peut être un grand serviteur de Dieu, avoir donné toute sa vie à l'œuvre de Dieu et finir avec le châtiment de Dieu. Est-ce que Moïse a été rejeté à tout jamais parce qu'il n'est pas rentré dans terre promise? Ben non. On le voit, Moïse était sur la montagne à la transfiguration. Mais Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Et malgré son insistance auprès de Dieu, Dieu va le dire, ne m'achale plus avec ça. Ne me parle plus de cette idée de te faire entrer en Israël. Tu ne rentreras pas parce que tu as frappé et tu t'es impatienté lorsque tu as frappé ce rocher deux fois. Et à cause de cela, même toi, Moïse, même toi, avec lequel j'ai fait tant de miracles, avec lequel j'ai fait tant de choses, avec lequel j'ai tant béni le peuple de Dieu, tu ne rentreras pas, malgré ton insistance, dans la terre promise. Moïse avait marché 40 ans en attente de cette journée glorieuse où il rentrerait dans le peuple, dans la terre promise. Mais il n'a pas pu rentrer. Moïse l'a accepté. C'est cela qu'on voudrait éviter, nous, comme croyants. C'est ça que je voudrais que vous évitez, vous, comme croyants. Vous avez servi le Seigneur. Vous l'avez servi peut-être pendant des années. Est-ce que cela nous immunise contre le châtiment de Dieu si on décide de se détourner de la façon dont Dieu veut nous diriger? Toute notre expérience, tous nos dons, tout ce qu'on a pu mettre au service de Dieu n'empêchera pas Dieu d'intervenir si on résiste à Dieu. Même l'apôtre Paul, avec tout ce qu'il a fait pour l'œuvre de Dieu, savait très bien que Dieu pouvait intervenir et mettre un châtiment sur lui. Au contraire, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur qu'après avoir prêché aux autres, d'être moi-même disqualifié. Est-ce que vous croyez que ça se peut, ça? Est-ce que Paul a parlé pour rien? Lorsqu'il a dit que c'était possible que quelqu'un a pu prêcher aux autres pendant des années et être disqualifié à un certain moment donné de sa vie, c'est possible. Et Paul craignait ça. Ici, il y en a un, selon moi, qui n'aurait pas dû craindre que Dieu intervienne puis le disqualifie, c'est bien Paul. Mais pourtant, Paul il marchait dans la crainte de Dieu et avait cette crainte d'être disqualifié s'il ne courait pas de la bonne façon. Attention de se reposer sur nos efforts passés pour penser que Dieu va nous laisser aller si on s'éloigne de sa volonté. La loi de Moïse et la loi de Christ n'est pas si différente qu'on l'imagine. Regardez, dans Deutéronome, il dit, il y avait une place pour adorer, c'était à Jérusalem. Il y avait du monde qui était loin de Jérusalem. Mais le temple était à Jérusalem. Et Dieu défendait à Israël de ne pas se rendre à Jérusalem. Et dans le Nouveau Testament, et c'était dans la loi, et dans le Nouveau Testament, dans Hébreu, n'abandonnez pas votre assemblée. Les petites réunions qui se séparent de l'Église pour aller faire selon leur propre désir, la Bible dit, celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Assistez, appuyez, soyez présents à l'Église dans laquelle vous appartenez. N'abandonnez pas votre assemblée. Dans Deutéronome, lorsqu'il parle du mariage, il parle que le mariage doit se faire entre juifs. Il dit de ne pas prendre les femmes de ces nations-là parce qu'ils vont vous détourner puis ils vont vous emmener à leur Dieu. Est-ce que c'est si différent dans la loi de Christ? ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Et que celui qui se marie dans le Seigneur. Il me semble qu'on oublie, il me semble qu'on met de côté ces principes-là de plus en plus dans nos églises. Et on va chercher des conjoints dans le monde. On n'est pas capable d'attendre que Dieu nous présente quelqu'un. Malheureusement, ça l'amène aussi bien des tourments, bien des difficultés. Les règles du mariage ne sont pas respectées et on en tire aussi des difficultés. Dans Deutéronome, au chapitre 1, et je vous lis ce texte, Deutéronome, chapitre 1. Moïse va traiter avec les responsables. Il va traiter avec ceux qui ont des jugements à rendre sur le peuple de Dieu. Et voici ce qu'il va dire au verset 17 du chapitre 1 de Deutéronome. « Vous n'aurez point égard à l'apparence des personnes dans vos jugements. » Vous n'aurez point égard à l'apparence de des personnes dans vos jugements. Vous écouterez le petit comme le grand. Vous ne craindrez aucun homme. Et combien c'était pertinent à cette époque de ne craindre aucun homme. Imaginez un prophète comme Nathan se présenter devant David pour lui mettre à pleine face son accusation d'adultère. Combien ça prenait du courage pour ce prophète de se présenter devant quelqu'un qui n'avait aucunement besoin d'un juge lui donne la permission pour couper la tête à quiconque voulait lui nuire ou quiconque voulait lui adresser quelque chose qui ne fait pas son affaire. Il pouvait couper la tête, il était le roi. C'était le juge suprême dans le pays. Et Nathan, ce petit prophète, devait se présenter sous l'ordre de Dieu, devant cet homme puissant, et dire, « David, tu as péché devant l'Éternel. » Et il le faisait. Quel courage ça prenait pour un Jean-Baptiste, devant un Hérode, un roi cruel et méchant qui est pire encore que David, et bien pire que David. Cet homme qui n'était même pas juif, mais qui était dans le peuple de Dieu, parce qu'il était en Israël. Ça devrait nous laisser peut-être un enseignement pour ceux qui fréquentent nos églises et qui ne sont pas sauvés, et qui vivent dans la débauche et dans toutes sortes de façons, et qui persistent à fréquenter nos églises. Ils sont parmi le peuple de Dieu. Et c'est important d'intervenir à un certain moment donné. Et c'est ce que Jean-Baptiste a fait. Même si Hérode n'était pas juif, il est allé le reprendre. Tu couches avec la femme de ton frère. Et qu'est-ce que ça a fait? La tête de Jean-Baptiste a été présentée au roi, à la reine. Est-ce que Jean-Baptiste a reculé devant ça? Non. Où est-ce qu'ils sont les hommes capables de donner la parole de Dieu telle qu'elle doit être donnée, quel que soit l'homme qui soit devant lui, quelle que soit sa notoriété, quelle que soit son instruction, quelle que soit sa richesse, quelle que soit sa popularité? Est-ce qu'on est capable? Est-ce que Dieu n'est pas plus grand que tous ces hommes que la terre porte? Est-ce que Dieu n'est pas plus puissant que tous ces puissants que la terre porte pour qu'on puisse se présenter et sans crainte de dire « Voici, je crains Dieu plus que quiconque. Et voici ce que Dieu dit concernant ta façon d'agir. Il m'arrivera ce qui devra m'arriver. Mais je veux prêcher la parole de Dieu. » Paul va dire à Timothée « Prêche la parole en toute occasion, favorable ou non. » Il n'est pas en train de dire ici à Timothée d'aller annoncer l'Évangile aux incroyants. Ce n'est pas ça que ça veut dire, ce texte-là. Prêcher la parole en toute occasion, favorable ou non. C'est Paul qui s'adresse à un Timothée qui est un pasteur d'Église. Un pasteur d'Église qui avait la responsabilité de prêcher la parole de Dieu telle qu'elle doit être prêchée, pendant que les gens qui étaient chrétiens dans son Église tentaient de vouloir s'éloigner des principes de Dieu. En copiant ce qui se passe dans le monde. Alors Paul va dire à Timothée, prêche la parole. Tu es un pasteur, tu es dans l'Église. Les croyants doivent connaître la vérité, peu importe les courants de ce monde, peu importe les courants qui vont rentrer dans l'Église, prêche la parole. Parce que Dieu est plus puissant, Dieu est plus grand. À vous qui avez des décisions à prendre, attention, n'ayez peur d'aucun homme. Dieu, c'est lui qu'on doit craindre. Et c'est à lui qu'on doit aussi obéir. La loi a été donnée à Israël comme un grand héritage. Quel héritage d'avoir la pensée de Dieu sur la façon dont on doit diriger notre pays, notre Église, notre famille. On a la sagesse de Dieu dans les Écritures pour savoir comment choisir nos conjoints, pour savoir comment élever nos enfants, pour savoir comment se comporter avec ceux avec qui on travaille, pour savoir comment se comporter avec le monde, pour savoir comment se comporter. On a cette sagesse qui nous vient de Dieu. Ce n'est pas une chose sans importance pour vous, c'est votre vie. C'est par là que vous prolongerez vos jours. La loi est un héritage de sagesse. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux du peuple, au lieu des peuples, qui entendront parler de toutes les prescriptions et diront « Cette grande nation ne peut être qu'un peuple sage et intelligent. » Est-ce que c'est comme ça que nous voyons les préceptes du Nouveau Testament? Est-ce qu'on les voit comme quelque chose qui nous arrête, qui nous empêche de faire ce qu'on veut, qui brime notre liberté? Ou bien donc comme des principes de sagesse qui nous fait surpasser les nations, les gens qui nous entourent? Parce que à cause de cette sagesse, on a moins de difficultés dans nos familles, on a moins de difficultés dans nos églises, on a moins de difficultés dans notre travail, on a moins de difficultés dans nos finances, on a moins de difficultés même dans notre santé. Et Moïse va dire, « Dieu, l'Éternel a choisi vos pères. Et maintenant, c'est vous qui l'a choisi. » Parce que là, il avait passé le désert. Il parle d'Abraham, Isaac et Jacob. Dieu a fait un choix pour ces hommes de Dieu que tout l'Israël respectait énormément. Mais il dit, « Dieu a fait un choix. » Il a pris Abraham, Isaac et Jacob. Mais maintenant, c'est vous qui a choisi. C'est vous qui a choisi pour porter la loi. Et Christ nous dit à nous, l'Église, maintenant c'est à nous. C'est nous qui portons maintenant la loi de Christ. C'est à nous. La bénédiction liée à l'obéissance, la malédiction à la désobéissance, parce que Dieu est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Dieu n'est pas Dieu seulement dans les cieux. Dieu est conscient de ce qui se produit sur la terre. Il est conscient de ce que tu fais. Lorsqu'il dit « entre dans ta chambre », il est conscient même de dans ton intimité, lorsque tu rentres pour prier l'Éternel. Dieu n'est pas un Dieu juste dans les cieux. Il est en haut dans les cieux, il est en bas sur la terre. Et il nous bénit dans notre obéissance. Et il doit, dans sa grâce, nous reprendre dans notre désobéissance. Et c'est ce qu'on voudrait éviter. Qu'il soit forcé de nous reprendre dans notre désobéissance, parce qu'on aurait eu une mauvaise conception de la grâce de Dieu. On ne peut pas plaider l'ignorance. Vous savez, ce texte que j'ai eu pendant des années, de la difficulté à comprendre, et même ma mère venait me voir, « C'est quoi ça veut dire, ça, Fernand, ce texte-là? Ne dis pas dans ton cœur qu'il montera au ciel, qu'il descendra. » Là, ne dis pas dans ton cœur qu'il montera au ciel. Parles-tu du salut ici, là? Puis qu'on ne doit pas dire dans nos cœurs qui va être sauvé, qui ne sera pas sauvé, et tout ça. C'est pas ça que ça dit. Je l'ai découvert cette semaine. Ça fait 30 quelques années que je suis au Seigneur. Et en lisant dans Deutéronome, il fait référence ici à un texte du Deutéronome. Et c'est après que Paul a eu donné la loi de l'Éternel, et il va dire au peuple de Dieu, « Maintenant qu'on a reçu la loi de l'Éternel, ne dis pas dans ton cœur qui va traverser la mer pour aller nous dire ce qu'il faut faire. Qui va descendre dans l'abîme pour nous dire, parce que c'est si loin de nous la vérité, c'est si loin de nous les préceptes de Dieu, on ne les connaît pas, on ne sait pas ce que Dieu veut. Dis pas ça, parce que la parole est près de toi, dans ton cœur. Le Saint-Esprit nous a été donné. On a l'Écriture, on a l'Église, on a tout ça près de nous et on n'a aucune excuse de ne pas s'intéresser à chercher la loi de Christ et à chercher à la mettre en pratique pour notre bonheur, pour notre joie et pour sa gloire. Pour montrer aux nations qu'il y a une différence entre quelqu'un qui connaît Dieu et qui le suit et celui qui ne le suit pas. Est-ce que je vous dis ce matin que si vous décidez d'obéir à la loi de Christ, il ne vous arrivera plus rien. Vous allez être béni. Il n'y aura plus de maladie. Il n'y aura plus de souffrance. Il n'y aura plus rien. Ne croyez pas que c'est ce que je veux dire. L'apôtre Paul a vécu des affaires épouvantables. Mais quelle joie il possédait, même dans ses pires souffrances. Le Seigneur le bénissait en prison. Il sauvait des âmes. Il rouvrait les portes. Malgré tout ce qui est arrivé, l'apôtre Paul disait que sa joie était complète. Et ce n'est pas un évangile d'abondance. Obéissez à Dieu, puis toutes les bénédictions vont vous tomber dessus et il ne vous arrivera plus rien. Mais ce qu'on peut dire, c'est que si on obéit à Dieu, la bénédiction de la façon dont Dieu vous nous l'a donnée va être là. Pour la vie présente, même dans la souffrance et aussi dans l'abondance, peut-être. Mais Paul a dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance et aussi dans la disette. C'est possible. Mais si vous êtes dans la disette, le Seigneur va être avec vous. Et il va vous bénir, il va remplir vos cœurs de joie. Parce que vous marchez dans ses voies. L'apôtre Jacques nous dit, « Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Dieu aime jusqu'à la jalousie l'Esprit qu'il a fait habiter en vous. Mais il donne une grâce supérieure, puisqu'elle dit, « Dieu châtie, Dieu résiste, Dieu résiste aux orgueilleux et il donne grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. » Il y a une bénédiction. Approchez-vous. Il va s'approcher de vous. Purifiez vos mains pécheurs, nettoyez vos âmes, vos cœurs partagés. Reconnaissez votre misère. Menez votre deuil. Pleurez. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Vous avez entendu ce message et je ne voudrais pas que ce message en soit un qui vous décourage. Mais au contraire, quel qu'ait été votre passé jusqu'à aujourd'hui, votre désobéissance, humiliez-vous et Dieu vous élèvera. Dieu va vous élever. Peu importe, et ça aussi, on a dit tout à l'heure que Dieu va châtier, peu importe notre passé ou nos bons coups, mais Dieu va élever aussi, peu importe nos mauvais coups, lorsqu'on veut s'humilier devant Dieu. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Parce que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au désir de ce monde et à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse, en attendant la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour de bonnes œuvres. Ainsi dois-tu parler, Tite, exhorter, reprendre avec une pleine autorité. Que le Seigneur vous bénisse cette semaine, qui vous aide à réaliser sincèrement ces choses et qui vous bénisse. Que la bénédiction du Seigneur soit sur vous, puisque vous avez pris à cœur de chercher l'Éternel et de le suivre. Prions. Seigneur notre Dieu, donne-nous, Seigneur, d'avoir un évangile équilibré. On voudrait bien saisir les nuances de ta parole, afin de mettre en pratique la parole. Et, comme le dit Jacques, de ne pas simplement se borner à l'écouter, parce qu'il y a d'énormes bénédictions qui s'y rattachent. Des bénédictions pour la vie présente, des bénédictions pour la vie future. Et malheureusement, il y a des conséquences à notre façon de vivre, surtout si on est des enfants de Dieu. Alors garde-nous, protège-nous, afin que nous vivions des vies heureuses dans nos familles, à notre travail, à notre Église, et que tu puisses être glorifié par notre façon de vivre. On te le demande au nom de Jésus. Amen.